Le journal Grâce Hamzati à la présentation.
La RDC appelle la Cour pénale internationale, CPI, à qualifier l'acte d'agression au même titre que le crime de génocide. Appel lancé par le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, c'est jeudi à la conférence de l'African Legal Aid tenue à Johannesburg, en Afrique du Sud. Plus de 5000 ménages sont sans abri dans la ville portuaire de Zongo à la suite de graves inondations. Depuis plus de deux semaines, plusieurs quartiers sont envahis par la montée des eaux de la rivière Ubangi. Le coordonnateur provincial intérimaire du programme de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire en Ituri est l'invité de ce journal. Flori Kitoko parle des avancées dans la mise en œuvre de ces programmes, mais aussi des défis qui restent encore à relever. À toutes et à tous, bonjour. Le gouvernement congolais appelle la Cour pénale internationale à qualifier l'acte d'agression au même titre que le crime de génocide, de crime de guerre et crime contre l'humanité. Le vice-ministre de la Justice et contentieux international Samuel Mbemba a soutenu cette position de la RDC hier à la conférence de l'African Legal Aid tenue à Johannesburg en Afrique du Sud. À la tribune de ce forum de deux jours, il a salué l'initiative de cette Cour internationale de sensibiliser ses États membres d'Afrique sur cette question. Samuel Mbemba est au téléphone de Blaise Ndongala Mayanda.
La République démocratique du Congo est victime d'agression de la part du Rwanda en ce moment. Et c'est depuis plusieurs années. Il n'y a pas que la République démocratique du Congo qui est agressée. Beaucoup d'autres pays dans le monde font l'objet d'agressions. Je me permets de confirmer dès l'abord de mon propos que le crime d'agression est le crime mère des autres crimes qui relèvent de la compétence de la CPI. C'est-à-dire que les crimes internationaux qui font aujourd'hui partie de la compétence de la CPI viennent ensuite d'abord de l'acte d'agression. D'où la question, pourquoi ne pas traiter le crime d'agression selon les mêmes règles que les trois autres?
Cette conférence s'est tenue près de trois semaines après que la CPI a annoncé sa décision de réactiver ses enquêtes sur les crimes présumés relevant du statut de Rome commis depuis janvier 2022 au Nord Kivu. Et puis, la coordination de la protection civile de l'Ituri alerte sur la présence des deux engins explosifs dans la chefferie de Bahema Nord dans les territoires de Djougou. Robert Njalonga affirme que ces engins de la mort traînent sur le sol depuis le 8 septembre dernier. Il sollicite l'intervention urgente du service de lutte anti-mine de la MONUSCO Yenmas pour garantir la protection des civils exposés à un danger de mort permanent. Il est dit au téléphone de Sadiq Aboubakar.
Ces deux engins explosifs ont été découverts, l'un dans le village Waliban et l'autre dans le village Njaza du groupement Wucha dans la chefferie de Bahema Nord en territoire de Njugu. Le souhait serait que le partenaire ou les services compétents à la matière puissent se mobiliser pour venir détruire ou récupérer ces engins afin de préserver la protection de la population. D'autre part, le souhait serait que ces services soient installés, équipés et renforcés à capacité d'une manière permanente ici dans la province de l'Ituri.
Le chargé des opérations de UNMAS, Beni, qui contrôle l'Ituri, dit ne pas être au courant de la situation. Jacob Bedidjo affirme toutefois que les dispositions seront prises pour répondre à ses besoins. Dans la ville de Beni au Nord Kivu, un homme a été tué par balle à son domicile au quartier Massiani la nuit de mercredi à jeudi par des individus armés non identifiés. Un autre corps, probablement celui de l'un de ses présumés assassins, a été retrouvé également à quelques mètres du lieu du drame. Une situation qui a plongé les habitants de ces quartiers dans la psychose. Jeudi matin, les cadres des bases interpellent les autorités sur l'insécurité qui semble refaire surface dans cette ville. Marc Marofimbo pour des précisions.
C'est depuis ces derniers mois que la sécurité a refait surface dans la ville de Beni après 6 mois d'accalmie. La nuit dernière, des bandits armés ont visité plusieurs maisons dans les quartiers Massiani où ils ont ôté la vie à un agent des impôts. Selon les témoignages recueillis sur place ce matin, une dispute aurait opposé les malfrats après leur forfait, occasionnant ainsi des tirs, des coups de feu. L'un des assaillants, atteint par balle, aurait succombé de ses blessures non loin du lieu des drames. Sous le choc, la famille du défunt exige l'arrestation des auteurs de cet assassinat.
À 0h, nous avons été alertés de l'entrée chez lui par effraction. Il lui a dit non, on est venu te tuer. Ce sont tes amis qui nous ont envoyé te tuer. Et c'est comme ça qu'il lui a criblé des balles dans l'abdomen. Et ça devient tragique, comme le disons, et autant d'autres situations que nous connaissons déjà dans la ville. Chaque jour, les criminels ont tendance à opérer avec tranquillité. Et donc tout ce que nous souhaitons, qu'il y ait des enquêtes. Mettons foi à la police et à la justice que cette fois-ci, ces enquêtes aboutiront pour déboucher à l'arrestation des criminels en fait qui ont commis cet horrible crime.
Antou Malissava, le chef adjoint du quartier Massiani, recommande aux services de sécurité d'organiser des patrouilles dans la concession des palmeraies de la société NRA qui serait l'un des bastions des bandits à main armée. Il invite également la population à davantage de vigilance et à alerter les services de sécurité sur tout mouvement suspect.
Comme dit au sommaire, la ville portuaire des Zongo au sud du Bangui fait face à de graves inondations. Depuis plus de 2 semaines, plusieurs quartiers sont envahis par la montée des eaux de la rivière Ubangi. Cela affecte plus de 5000 ménages qui restent sans abri. Les victimes manquent de tout. Elles se disent abandonnées malgré les efforts minimes de la mairie de la ville. Le point avec Paul Richard Malengela.
Les deux communes de Zongo sont affectées par l'actuelle inondation, particulièrement les quartiers Oublok, Maba, Foulou, Nyasuba, Bolaka et une partie de Nika. Plusieurs habitants passent la nuit à la Belle Étoile, certains dans des églises et écoles où ils sont allés s'abriter. Ils manquent cependant de tout et mènent une vie insupportable. Mama Diamila, une des sinistrées, témoigne leur détresse. Nous dormons à peine, il y a plein de moustiques, difficile de manger, les enfants sont malades, nous nous nourrissons par la providence divine. Jusque-là, aucun soutien des autorités, excepté la visite du président de la société civile. Malgré le premier appui leur apporté par la mairie de la ville, les besoins de ces sinistrés restent encore nombreux. C'est pourquoi le président de la société civile de Zongo demande l'implication des autorités tant provinciales que nationales. Henri Mbali.
C'est vraiment déplorable, vous savez, ils sont dépendants. Les autres se trouvent dans des églises, dans des écoles, dans des familles d'accueil. Mais il n'y a pas de secours, de médicaments pour l'intervention. Il n'y a pas à manger. Nous demandons aux autorités, personne de bonne volonté, de venir en aide.
Notons que par voie d'ordonnance, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a décidé la création d'une nouvelle cité en faveur des sinistrés dans la commune de Nzulu. Mais jusque-là, la décision souffre de non-exécution. Bandaka, Pochamalengela, Radio Okapi.
Éducation. Au Kwilu, la grève des enseignants de la province éducationnelle Kwilu 2, basée à Kikwit, vient d'être suspendue. La décision est de l'intersyndicale qui a réuni mercredi à l'EPE et Ngangu tous les délégués des bases dans une assemblée générale. La réunion a connu la participation d'une délégation du ministère de l'Éducation nationale venue de Kinshasa. Le président de l'intersyndicale du Kwilu 2, Benoît Kachama, qui l'est dit, invite les enseignants à reprendre le chemin de l'école dès lundi. Ses propos sont choisis par Irène Mbomalozolo.
Nous avons rencontré tous nos délégués de base. Il était question qu'on étudie un peu comment on peut détenter la situation. Partant de quelques avancées du gouvernement, par exemple les 50 000 francs qui sont donnés quand même aux enseignants pour la paye de mois d'octobre. Et puis il y a encore le problème ECOFIN. Il y a encore l'incorporation des enseignants dans la fonction publique pour que l'enseignant puisse avoir tous les avantages comme autre fonctionnaire de l'État. Toutes ces avancées-là ont fait que nous puissions. Bien que de l'autre côté, il y a des manquements que nous attendons, mais le gouvernement a manifesté ouvertement qu'il n'était pas prêt à changer cette situation immédiatement, faute du budget de 2024. Il est question qu'on attende le budget 2025. C'est ainsi que nous aussi, de notre côté, nous avons saisi cette occasion pour dire que nous allons reprendre le chemin de l'école pour leur promesse. Nous allons attendre le mois d'avril. Dès qu'on va nous payer, nous verrons ce que nous pourrons faire. Donc nous avons suspendu la grève. Les enseignants pourront être dans les écoles dès le lundi sans problème.
Et au Maniema, la reprise des cours est effective dans toutes les écoles du secteur de Béa, dans les territoires de Pangui, après une longue période de grève sèche. Confirmation faite à Radio Okapi par le chef des secteurs. Toutefois, maître Hilaire Wessa Lukusa plaide pour la réhabilitation, c'est pas la construction des écoles de son secteur qui se trouve déjà dans un état piteux. On l'écoute au micro de Florence Kizalonga.
Et après le mot d'ordre du syndicat du territoire de Pangui, les écoles ont repris. Ça fait maintenant une semaine que les enfants ont repris le chemin de l'école. Et qu'il y a maintenant une bonne ambiance parce qu'il y avait vraiment une grève sèche, mais ça va présentement dans le secteur de Béa. C'est vraiment un casse-tête avec les États par rapport à notre itinérance parce que j'ai fait l'itinérance dans 7 groupements de mon secteur, mais j'ai identifié plusieurs écoles qui sont dans un état de délabrement très avancé et qu'il faille vraiment une intervention rapide pour aider ces enfants malgré la gratuité, mais nous devons aussi voir les conditions d'études là où les enfants sont en train d'étudier pendant 4 heures et 5 heures durant. Il faut vraiment aménager beaucoup d'écoles dans mon secteur de Béa. Ce que nous demandons, nous faisons d'abord un plaidoyer auprès des partenaires, auprès des autorités au niveau de la province, au niveau national, pour que les écoles puissent subir certaines modifications et un regard particulier dans les écoles du secteur de Béa.
Cette autre nouvelle, la population quinoise, estimée à plus de 15 millions d'habitants, fait face aux sérieux problèmes de mobilité dus notamment à l'état d'effectuer les routes. Notre reporter a fait ce constat à marge de la Journée mondiale des villes célébrée le 31 octobre de chaque année. Consciente de cette réalité, les autorités ont lancé le système de circulation alternée. Les explications de Blaise Ndongala Mayanda.
La population de la capitale congolaise éprouve de sérieuses difficultés pour se déplacer d'un point à un autre, surtout lors des heures de pointe. Elle fait face surtout aux embouteillages dus notamment au délabrement avancé de plusieurs routes. Pour résoudre cette épineuse question, les ministères des Transports et Voies de Communication, associés aux autorités urbaines, ont lancé depuis quelques jours les systèmes de circulation alternés. Le directeur technique de la Commission nationale de prévention routière explique que cette mesure expérimente des conduites à sens unique sur certaines artères à des aires de pointe, notamment sur les avenues Nguma et tourisme. Valère Fumukani s'est réjoui que cette nouvelle politique routière produit déjà quelques résultats escomptés.
Depuis dimanche jusqu'au maintenant là, il y a vraiment eu une nette amélioration parce que la population finalement commence à comprendre ce que nous voulons. Et c'est comme ça que eux-mêmes sont en train de nous témoigner que la situation est vraiment très positive.
Il a tout de même reconnu la persistance de quelques notamment sur l'avenue Tourisme, dans son tronçon compris entre Brickhill et Kitambo Magasin. Il faut rappeler que cette année, la Journée mondiale des villes est placée sous le thème « Les jeunes acteurs du changement climatique, catalyser l'action locale pour la durabilité urbaine ».
Actualité internationale.
Le flux des migrants sur le sol mauritanien a atteint un seuil critique. La détérioration du contexte sécuritaire dans la région entraîne une intensification des flux des migrants irréguliers traversant la Mauritanie vers l'Espagne. C'est le message délivré en début de semaine par le ministre mauritanien de la Défense, Anena Ould Sidi, lors du passage à Nouakchott de son homologue espagnol Margarita Robles. Et en Côte d'Ivoire, mi-octobre, un mouvement de grève de 3 jours lancé par des syndicats d'enseignants avait perturbé les cours dans plusieurs établissements scolaires publics à travers le pays. Ces débrayages, jugés illégaux par les autorités, a suscité une réaction stricte du gouvernement qui a annoncé mercredi des sanctions au terme du Conseil des ministres, dont la suspension des salaires des meneurs de cette grève.
L'invité.
175 ex-combattants sont pris en charge par le programme de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire PDDRCS au site de Diango, à une dizaine de kilomètres de Bunyanituri. Certains sont installés dans des communautés proches du site et d'autres munis de feuilles de route ont obtenu l'autorisation du bureau pour rejoindre leur famille. Le coordonnateur provincial intérimaire du PDDRCS à Nituri parle ici des avancées dans la mise en œuvre de ces programmes ainsi que des défis à relever. Fleury Kitoko s'entretient avec Isaac Remoyope.
Fleury Kitoko, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Depuis avril 2022, certains miliciens ont intégré le site de Diango à une dizaine de kilomètres de Bunia et d'autres s'y sont ajoutés progressivement. Comment évolue ce processus des ans après?
Le 17 avril 2022, c'était le lancement officiel du programme PDDRCS en Ituri dans le cadre des désarmements et la démobilisation. Et nous avons reçu quelques éléments du groupe armé Codeco, de Njougou, et FPIC, de Maïmaï qui sont venus de Opienge dans Tchopo, et de Maïmaï vers Mambasa Biakato. Après la sensibilisation, il y a eu nos amis autodéfense vers Kabarole et Tere. Jusqu'à ce jour, nous sommes à 175 démobilisés qui ont passé par Diango. Parce que tout le monde n'habite pas Diango. Il y a ceux-là qui ont choisi de rentrer dans la communauté parce qu'ils ont à faire les champs ou quoi. Actuellement, il y a plus ou moins 135 à 140 qui habitent encore les sites de Diango.
Vous avez dit qu'il y a d'autres qui sont dans la communauté, ils s'estiment à combien? Parce que, comme vous venez de le dire, tous ne sont pas installés au site.
Exemple, ceux qui sont dans le groupement de Tere. Tere à quelques 4 km de Bounia. C'est là, quand ils ont des armées, ils ne sont pas allés au site de Diango. Parce que l'approche du programme, c'est l'approche purement communautaire. Il y a une 13 au moins qui sont dans la communauté de Tere, qui habitent là-bas. Une dizaine sont rentrés en Djoukou. Ils ne sont pas rentrés pour aller dans les groupes armés. Ils ont demandé. On les a fait même des petites notes d'aller. C'est comme une feuille de route. Il a demandé, ma femme est malade, les enfants doivent rentrer à l'école. Et à la commune là-bas, ils rentrent, ils communiquent avec nous, ils envoient des photos pour dire, je vais bien, je fais mon champ. Et depuis qu'ils sont rentrés, il n'y a jamais eu des inquiétudes, des attaques ou des menaces dans la communauté.
Nous avons rencontré certains démobilisés sur place qui déplorent les mauvaises conditions de prise en charge, pas des vivres, des médicaments et d'eau. Donc, qu'est-ce qui est fait par les programmes pour relever ces défis?
Je prends exemple de l'eau. Nous avons fait le forage d'eau. On a utilisé le système des panneaux solaires. Eux-mêmes, les jeunes gens, qui sont trop malhonnêtes, ils ont volé l'appareil qui donne l'eau. Il y a une rupture. Mais nous avons fait deux forages. Il y a personne ne peut me dire aujourd'hui, gardien, il y a pas l'eau. Et par rapport aux vivres, je ne peux pas refuser. Il y a un moment où nous manquons peut-être de moyens pour qu'ils ne puissent pas manger 3, 4 ou une semaine. Mais nous faisons toujours un effort parce qu'au départ, nous avions un partenaire qui donnait à manger pour un mois. Chaque mois, il nous donnait de nourriture. Actuellement, il y a un peu de difficulté. De temps en temps, ça peut manquer. Mais il ne peut pas vous dire qu'il n'y en a pas. Je ne peux pas rester 2 ans à Diango sans manger. Je crois qu'ils ne peuvent pas rester. Moi, en tant qu'ancien dans le programme, ils mangent encore mieux que les anciens programmes. Ils sont très bien logés. Ils ont les lits. Ils ont des couvertures. Ils ont des matelas. Ils ont des savons. Ils ont des draps de lit. Ils ont des kits civils où il y a des ketchs. Il faut être reconnaissant ça.
Et par rapport à la prise en charge médicale, il y a une vingtaine qui manifestent des symptômes, des maladies.
Côté de santé, c'est comme maman. Il y a une dame infirmière qui est là, qui prend en charge les démobilisés. Même les symptômes qui s'est manifesté la semaine passée, un peu de diarrhée, 26 cas. Aujourd'hui, nous sommes à 7. Ce n'est pas dit qu'on a laissé, il n'y a pas eu de mort depuis que l'épidémie est arrivée.
Ces démobilisés disent n'avoir pas encore bénéficié des formations professionnelles depuis 2 ans pour leur insertion dans la communauté. Qu'est-ce qui est à l'origine des blocages pour l'effectivité de ces programmes à Nitour?
Le programme PDDRCS prévoit, dès que les démobilisés viennent à notre échelle, et au choix de démobiliser, il y a des questions qu'on leur pose. Quand tu veux rentrer à la communauté, qu'est-ce que tu vas aller faire? Il y a ceux qui ont choisi de faire la mécanique, ménagerie, couper, couture, coiffure, esthétique, élevage, mécanique, boulangerie, puis ménagerie. Ce programme, c'est prévu dans les programmes, selon la stratégie nationale.
Ça fait 2 ans.
Oui, ça fait 2 ans. Nous n'avons pas encore lancé la formation. C'est comme ça que nous avons dit, ok, comme ça a pris des retards, si nous pouvons prendre les démobilisés, de les faire partir, de les faire retourner dans la communauté. Comme les programmes sa base communautaire, il y aura maintenant des formations au sein de la communauté avec les appuis de nos partenaires. Ils vont attendre les projets, les formations au sein de la communauté. De placer les gens dans les sites de prise en charge, ça nous coûte énormément beaucoup d'argent. Mais c'était prévu, mais depuis 2 ans, on n'a pas organisé.
C'est un problème de financement.
Oui, c'est un problème toujours de l'argent.
Le coordinateur provincial intérimaire de PDDRCS en Ituri, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Est-ce la fin de ce journal coordonné par Jude Mister Bilanda et supervisé par Martin Sebujangwe? Mimi Kindou en a assuré la mise en onde et grâce à Mzati Masanzi était la présentation. Vous pouvez réécouter ce journal sur www.radiokapi.net. Merci pour votre attention.